Deuxième épisode, le jardin des gémissements. Chapitre 1er, une fête de milliardaires. Ce jour-là, toute la ville de San Francisco, une des plus vivantes et des plus bruyantes villes du monde, était en pleine effervescence. À la bourse, dans Montgomery et dans Market Street, et jusque dans la ville chinoise et dans le faubourg d'Orient, on ne parlait que de la fête que donnait, le soir même, le banquier Josias Horman Robinson, propriétaire et directeur de la Miney Mexican Bank, au capital de 200 millions de dollars. Quelques jours auparavant, les plus notables personnages du monde de la finance avaient reçu l'invitation suivante. « Monsieur et Madame, vous êtes priés de bien vouloir assister au dîner suivi de bal qui sont offerts à ses amis, à l'occasion de son retour à la jeunesse, par M. Josias Horman Robinson, en sa Villa des Cèdres, le mercredi 20 septembre, à 19h très précise. » En traitement depuis 2 mois dans la maison de santé du docteur Klaus Christian, le banquier allait reparaître, débarrassé du poids des années par la vertu des greffes merveilleuses. La curiosité était arrivée au plus haut point. Des paris énormes étaient engagés sur la question palpitante de savoir si Robinson était de 60 ans, revenu à 40, à 30 ou même à 20. Les plus imaginatifs penchaient audacieusement vers cette dernière hypothèse. Les procédés employés par le docteur Christian, jusqu'alors rigoureusement tenus secrets par lui, faisaient l'objet de discussions non moins vives. Les uns affirmaient qu'ils s'étaient servis de glandes arrachées à des orang-outans venus de Java à grands frais. D'autres parlaient d'un mystérieux topic où entraient des sels de phosphore et de fluor, des extraits de jaborandi et d'autres plantes du Brésil, et qui avaient la magique vertu d'effacer les rides, de rendre aux artères ossifiées une juvénile élasticité, et même de faire repousser les cheveux et les dents. Quant aux heureux détenteurs des cartes d'invitation, ils étaient en proie à la plus trépidante impatience. La journée leur parut à tous longue comme un siècle. La fièvre de la curiosité, l'excitement, comme disent les Américains, était telle que, dès 17h, les premières autos commencèrent à arriver en face des grilles dorées de la Villa des Cèdres, où elles formèrent bientôt une file imposante. Les invités étaient reçus au perron par des domestiques noirs, en livrée écarlate, galonnée d'or, et introduit dans un vaste salon d'attente qui s'ouvrait sur le parc de la villa, où les eaux jaillissantes, les tulipiers en fleurs, les magnolias, les flamboyants, les jasmins de la Floride, les roses de Californie, composaient un décor de rêve. Par-delà cet océan de fleurs, on apercevait les troncs géants des séquoias et des cèdres millénaires qui donnaient l'illusion d'un coin de forêt vierge. Bientôt, la plus brillante société de San Francisco se trouva groupée dans le salon d'attente. Le célèbre détective John Jarvis, ami personnel du banquier, qui se trouvait au nombre des invités ainsi que son collaborateur, le Canadien Florida Kennel, reconnut et salua dans cette cohue étincelante et parée l'armateur milliardaire Robinson Barney, Reuben Eliphaz, directeur du Trust du Platine, Stephen Gardner, le célèbre constructeur de locomotives, Manuel Guasco, le grand propriétaire de forêt, Nicholas Spruce, qui possédait toute une rue, et 20 autres, dont le plus pauvre avait au moins 1 milliard. Quant au Canadien, il n'avait d'yeux que pour la partie féminine de l'Assemblée, et il contemplait avec une naïve admiration les rayonnantes beautés que John Jarvis lui désignait complaisamment au passage. « Cette admirable blonde, dit le détective, et la fille aînée de Lord Stevenage, une Anglaise. Sa rivière de diamants et son aigrette valent une fortune. Sa voisine, cette rêveuse et frêle beauté aux yeux couleur d'aigle marine, qui fait songer à l'Ophélie du poète, est Mrs. Robinson Barney. On dirait une fée des eaux avec son diadème et ses colliers de perles roses. Cette rousse opulente, à la parure d'émeraude, à la peau blanche comme le lait, est Miss Nicholas Spruce. » Cette énumération fut brusquement interrompue. La monumentale horloge d'argent, qui s'élevait au fond du salon, avait commencé à sonner les 7 coups de l'heure. Au murmure des conversations avait succédé un impressionnant silence. les dames frissonnaient d'une délicieuse émotion, faite de la fièvre de l'attente et du plaisir de la curiosité satisfaite. Le septième coup n'avait pas achevé de tinter que la porte du fond s'ouvrait à deux battants, en même temps qu'un majordome à chaîne d'argent annonçait d'une voix vibrante « Miss Elsie Godescore, Monsieur le docteur Klaus Christian, Monsieur Georgius Armand Rabington. » Personne ne prêta la moindre attention au docteur ni à Miss Elsie, la pupille du banquier. On n'avait Dieu que pour l'homme rajeuni qui s'avançait avec un orgueilleux sourire. Il y eut quelques minutes de tumulte. Une vraie bousculade se produisit. Tout le monde voulait serrer la main du banquier, le voir de près, l'entendre parler. Les cris, les exclamations, les hurrahs frénétiques se mêlaient dans un vacarme assourdissant. « Hip hip hip, hurrah ! Vive le jeune Rabington ! » On lui donnerait tout au plus 36 ans. « C'est merveilleux ! Voyez quelle souplesse, quel feu dans le regard ! Et pourtant, l'expression de ses traits est la même. Il n'est pas sensiblement changé. Sauf que ses cheveux ont repoussé. Et ses dents. Cette petite moustache noire coupée court lui sied à ravir. Il est superbe. » Rabington, les mains broyées par les shake hands, le plastron de sa chemise déjà chiffonné, l'habit fripé, se prêtait de bonne grâce à l'enthousiaste curiosité de ses hôtes. Les dames surtout étaient terribles. Elles ne se rassasiaient pas de le voir, de le palper et même de le pincer. Et il se trouva une petite miss aux yeux bleus, à la mine candide, pour lui tirer sournoisement les cheveux, afin de s'assurer qu'il ne portait pas une perruque. De la meilleure grâce du monde, Rabington se laissait faire, répondant sans impatience au shake hand, aux compliments et aux questions, et souriant d'un air de condescendance débonnaire. Au milieu de ce joyeux tumulte, John Jarvis, dont les puissantes facultés d'observation ne restaient pas une minute sans s'exercer, remarqua deux choses. D'abord, la mine ironique et méprisante du docteur Christian qui, retiré dans un angle du salon, souriait sardoniquement en haussant les épaules. Le docteur était petit et ventripotent. Ses bras trop longs balançaient de formidables poings, noueux et velus. Sa face carrée, aux mâchoires lourdes, surmontée d'une forêt de cheveux d'un roux désagréable, exprimait la brutalité et la bassesse. Et ses petits yeux porcins aux sourcils pâles reflétaient la ruse et la perfidie. « Ce docteur a beau être un grand savant, songea le détective, il a tout l'air d'un parfait coquin. » La seconde chose qui attira l'attention de John Jarvis fut l'attitude de Miss Elsie, la pupille du banquier, qui se tenait, elle aussi, à l'écart de la cohue, souriant faiblement à la scène qui se déroulait devant ses yeux. Il sembla au détective que ce sourire était contraint et dissimulait une secrète appréhension, un ennui ou un mécontentement. Il ne savait au juste. Miss Elsie était très belle, d'une sculpturale beauté. Grande et svelte, la taille souple et ronde, le buste harmonieusement développé, elle offrait un visage régulier d'un ovale pur que couronnait une opulente chevelure d'un blond cendré. Ses prunelles limpides étaient du bleu rare du lapis lazuli. Dans le noble dessin du nez aux ailes vibrantes, de la bouche à l'arc purement dessiné, dans les mains fines aux longs doigts fuselés, il y avait une distinction profonde. On devinait en Miss Elsie une nature profondément aristocratique, douée d'une sensibilité suraiguë, presque maladive. Une expression de douceur tempérait ce que cette physionomie eût offert de dur, de fermé et de mystérieux. Telle qu'elle était, Miss Elsie Godescore était ensorcelante. La première fois qu'il l'avait vue, le détective avait été profondément impressionné par le charme délicat qui émanait de la jeune fille, et tous deux s'étaient sentis attirés l'un vers l'autre par une mutuelle sympathie. En quelques conversations, il avait découvert chez Miss Elsie un grand bon sens, une loyauté parfaite, une culture intellectuelle très avancée. Depuis, ils s'étaient toujours rencontrés avec plaisir. Leurs idées étaient les mêmes sur beaucoup de points. John Jarvis se disposait à se rapprocher de la jeune fille lorsque s'ouvrirent les portes du hall, transformées pour la circonstance en salle à manger. Bien qu'il ne fût pas encore nuit, le grand lustre de verre colorié avait été allumé, montrant les tables étincelantes de vaisselle plate et de cristaux, dressés au milieu des massifs d'arbustes, illuminés de petites lampes électriques de toutes les nuances. Le détective chercha vainement à prendre place à côté de Miss Elsie. Distraite ou désirant s'isoler, elle s'était assise entre deux richissimes marchands de bœufs du Far West, gens pélocasses et d'une galanterie sommaire. Derrière chacun des convives, un domestique noir avait pris place, attentif et silencieux. John Jarvis, que le hasard avait placé entre la blonde Miss Stevenage et la rousse Miss Spruce, lut complaisamment à ses voisines le menu gravé sur des feuilles d'ivoire et qui était digne de la richesse de l'amphitryon. Ce menu comprenait entre autres raretés gastronomiques un colossal saumon grillé piqué de truffes, servi sur un lit d'huîtres et de crevettes avec une sauce verte au ravensara, un gigot de guanaco des Andes, à l'écossaise, des carrés de faisan, de dindonneau sauvage et de tortue verte, une grande outarde, ce roi des gibiers qui possède 7 sortes de chairs, toutes d'une couleur et d'une saveur différentes, entièrement farcies de bec figue et de bécassine, entouré de choux palmistes à la crème, des pigeons des Moluques, nourris de noix de muscade, des lézards iguanes, grillés, accompagnés d'une sauce indienne au gingembre, etc., etc. À la grande satisfaction des convives, ce splendide repas, en dépit des sévères lois américaines, ne devait pas être un repas sec. Chargé d'affaires de plusieurs républiques de l'Amérique centrale, le banquier jouissait de l'immunité diplomatique comme l'attestait le buffet dressé au fond du hall et couvert de vénérables flacons. Les hors-d'œuvre n'étaient pas achevés qu'une joie tapageuse commença à se manifester. Certains invités buvaient déjà du champagne frappé. Le visage des plus réservés parmi les miss se colorait insensiblement d'une charmante rougeur et leurs beaux yeux lançaient des flammes. De temps en temps, de longs et bruyants éclats de rire s'élevaient et dominaient un instant le tumulte des conversations. John Jarvis, qui par principe buvait et mangeait très peu, ne quittait pas des yeux Miss Elsie. Il constata que la jeune fille ne touchait à aucun des mets qui lui étaient offerts. De plus en plus, elle paraissait préoccupée, absente, et ses rares sourires avaient quelque chose de contraint. Le détective observa à ce moment que Robinson et le docteur Klaus Christian, assis l'un près de l'autre à un bout de table, se désintéressaient complètement de ce qui se passait autour d'eux. Ils avaient entamé à voix basse une discussion animée, mais qui ne semblait rien moins qu'amicale, car de temps en temps, le docteur serrait ses poings énormes dans un geste menaçant, et le banquier, les sourcils froncés, paraissait faire de violents efforts pour ne pas laisser éclater sa colère. Sauf le détective, d'ailleurs, aucun des convives ne s'occupait d'eux. La gaieté allait crescendo, et la réunion, à mesure que disparaissaient les bouteilles d'extra dry, devenait de plus en plus houleuse. On en était au dessert. Avec un sans-gêne bien yankee, un certain nombre de gentlemen avaient déserté les tables et allumé d'énormes havanes baguées d'or. Ils formaient un groupe compact en face du buffet où les sommeliers leur versaient à pleine coupe du champagne frappé et des cocktails incendiaires. Les deux indigènes du Far West étaient au nombre de ces intrépides buveurs. Ils avaient égoïstement abandonné leur voisine de table, Miss Elsie, sans même un mot d'excuse. John Jarvis voulut profiter de cette circonstance pour aller s'asseoir près de la jeune fille, et il était arrivé à quelques pas d'elle quand la sonnerie grêle du téléphone retentit dans une pièce voisine. Miss Elsie, habituée à servir de secrétaire à son tuteur en maintes occasions, s'était levée pour aller prendre la communication. Par la porte demeurée entrouverte, le détective vit la jeune fille approcher de son oreille le cornet d'or massif, mais presque aussitôt, elle jeta un cri d'épouvante et roula comme foudroyée sur le tapis épais qui couvrait le sol. Son visage était devenu blême. Elle s'était évanouie. Il y eut quelques minutes de désarroi. Tous les convives s'empressaient autour de la pupille du banquier. Mais avant que personne eût le temps d'intervenir, le détective s'était élancé, avait pris la jeune fille dans ses bras, l'avait déposée doucement sur un divan et lui faisait respirer un flacon de lavender salt. Au bout de quelques secondes, elle ouvrit les yeux, mais pour les refermer presque aussitôt, une indicible épouvante se peignait sur son beau visage. Robinson et le docteur Christian accouraient, fendant la cohue des curieux. « Merci de vos soins, dit sèchement le docteur à John Jarvis. « Mais je vais m'occuper de la malade. Rien de grave, d'ailleurs. Une simple syncope due à la chaleur. » Il ajouta en se tournant vers les invités. « Miss Elsie a surtout besoin de grand air et de silence. Son malaise sera dissipé dans peu d'instants, pourvu qu'on veuille bien nous laisser la soigner tranquillement. » Déçus dans leur curiosité, les convives évacuèrent la pièce dont la porte se referma. L'instant d'après, Robinson reparaissait la mine souriante. « Soyez rassurés, ladies and gentlemen, » dit-il gaiement. « Mais celle-ci est revenue à elle, et elle va aussi bien que possible. Mais elle a exprimé le désir de regagner ses appartements pour y prendre un peu de repos. Dans une heure au plus, le docteur l'affirme, elle sera complètement remise. L'absence momentanée de ma pupille ne changera rien d'ailleurs à notre programme. » Et du geste, il montrait par la grande verrière qui faisait le fond du hall le parc illuminé à Giorno, et où les serviteurs achevaient de disposer un vélum de soie orange qui devait abriter une salle de bal improvisée en plein air au milieu des massifs de fleurs. Dans le lointain, un orchestre de 50 musiciens installés sous un berceau de verdure accordait ses instruments. Le banquier jeta sur ses préparatifs un regard satisfait. « Après le feu d'artifice, expliqua-t-il à John Jarvis, bal jusqu'à minuit. Puis, bal et pantomime sur la scène du théâtre de verdure. À une heure, souper par petite table. Puis, bal encore jusqu'au lever du jour pour ceux qui ne seront pas trop fatigués. » Et, sans attendre la réponse du détective, Robinson pivota sur ses talons avec une agilité toute juvénile et se dirigea vers un autre groupe. John Jarvis attendit jusqu'au souper dans l'espoir de revoir Miss Elsie. Mais la jeune fille ne parut pas. Le docteur Klaus Christian expliqua qu'il lui avait administré une potion calmante et qu'après une nuit de bon sommeil, il ne resterait plus trace de l'indisposition. D'ailleurs, ni le docteur ni le banquier ne fournirent d'explication sur la cause qui avait déterminé l'évanouissement de Miss Elsie. Chapitre 2. Une énigme insoluble. 3 jours s'étaient écoulés depuis la fête donnée à la Villa des Cèdres. Le banquier Robinson était d'un seul coup devenu l'homme le plus populaire de San Francisco. Tous les périodiques donnaient son portrait accompagné d'une substantielle biographie. À la bourse, dans une seule séance, les actions de la Miami Mexican Bank avaient monté de 12 points. Le détective John Jarvis était un des rares à ne pas partager cet engouement. Les allures presque insolentes du banquier depuis son rajeunissement lui avaient souverainement déplu, aussi bien que la physionomie brutale et côteleuse du docteur Klaus Christian. Enfin, l'évanouissement de Miss Elsie lui avait laissé une pénible impression qu'il n'arrivait pas à dissiper. D'ailleurs, il n'avait pu revoir la jeune fille. Chaque fois qu'il s'était présenté à la villa, M. Robinson était absent ou travaillait avec ses secrétaires et ne recevait pas. Et Miss Elsie, invariablement, était allée faire une promenade en auto. John Jarvis flânait, un après-midi par la ville, en réfléchissant aux raisons qui pouvaient motiver la singulière conduite du banquier à son égard, quand dans Mason Street, le chemin lui fut barré par un embarras de voiture. Il s'apprêtait à revenir sur ses pas lorsqu'il crut reconnaître, dans une auto arrêtée par l'encombrement, Miss Elsie elle-même. Il ne s'était pas trompé. Elsie était là, à 2 pas de lui, mais son beau visage était pâli par le chagrin ou la maladie. En apercevant le détective, elle eut un faible sourire. Elle mit un doigt sur ses lèvres comme pour lui faire comprendre qu'elle était surveillée. Puis elle lui fit signe d'attendre. John Jarvis se rapprocha prudemment en se dissimulant derrière un camion et, au bout d'un instant, Elsie lui glissa dans la main un billet qu'elle venait de griffonner sur une page de son carnet. Il lut, après avoir eu la précaution de se cacher dans l'embrasure d'une porte cochère. « Il faut que je vous parle. Attendez-moi dans un quart d'heure à la porte de votre jardin. » Enfin, il allait donc avoir des nouvelles. Il déchira le billet en tout petits morceaux, qu'il sema le long de sa route, et se hâta de regagner l'hôtel qu'il occupait dans Mateo Street, une paisible rue, proche du faubourg d'Orient. Grâce à l'énergique intervention des policemen, l'embarras de voiture s'était promptement dissipé. Miss Elsie jeta à son chauffeur l'adresse d'un grand magasin de nouveautés de Montgomery Street, où elle arriva quelques minutes plus tard. Le chauffeur la vit descendre, entrer dans le magasin, stationner au rayon des soirées, puis disparaître dans la foule. la jeune fille avait traversé le magasin dans toute sa longueur. Elle ressortit par une autre porte et se dirigea vers Mateo Street, marchant aussi rapidement qu'elle le pouvait et se retournant de temps à autre pour voir si elle n'était pas suivie. Elle atteignit sans encombre la rue déserte où donnait la porte du jardin qu'elle trouva entrebâillée. Elle entra. John Jarvis était là, cordial et souriant, mais plus ému qu'il n'eût voulu le paraître. « Que se passe-t-il donc à la villa ? » demanda-t-il impatiemment. « Pourquoi n'avez-vous pas pensé plus tôt que vous aviez en moi un ami ?» La physionomie de la jeune fille avait revêtu cette expression de tristesse et d'épouvante qui avait frappé le détective le soir de l'évanouissement. « Je n'ai pu venir qu'aujourd'hui, et ce n'a pas été sans peine. Je suis espionnée, presque prisonnière. Est-il possible ?»« Monsieur Robinson, » murmura-t-elle en frissonnant, « n'est plus du tout le même pour moi depuis qu'il est rajeuni. Mais il faut que je me hâte de tout vous dire, car les minutes sont précieuses. Il ne faut pas qu'on sache que je vous ai vu, ni qu'on s'aperçoive de mon absence. Le soir de la fête, vous paraissiez déjà toute triste. Oui, je suis très impressionnable et je ne puis jamais dissimuler ce que j'éprouve. Je ne puis supporter la présence du docteur Klaus Christian. J'éprouve pour lui la même répugnance physique que pour un rat, un crapaud ou tout autre animal immonde. Il m'est tellement odieux que sa présence me cause un réel malaise. Et comme il devine l'impression qu'il produit sur moi, il me déteste cordialement. J'étais dans cette fâcheuse disposition quand la sonnerie du téléphone a retenti. Le visage convulsé d'horreur, elle ajouta avec effort. « Voici les paroles qui ont causé mon évanouissement. Elsie, ma chère Elsie, venez à mon secours, je suis... » Et cette voix suppliante qui montait vers moi des profondeurs de l'inconnu, c'était la voix de mon tuteur, du vrai monsieur Robinson. Comprenez-vous l'atrocité de ma situation ? Jarvis était violemment ému. « C'est épouvantable !» balbutia-t-il. « Mais êtes-vous bien sûr que quelque mauvais plaisant ne soit pas amusé à contrefaire la voix de votre tuteur ?»« Non, je ne puis pas m'être trompée. C'était bien monsieur Robinson. » John Jarvis fit quelques pas dans les allées, en proie à une inexprimable agitation. « Et depuis ? » demanda-t-il après un silence. « Il ne s'est produit aucun appel du même genre ?»« Non. » D'ailleurs, ce qui confirme mes soupçons, mon téléphone particulier est détraqué et les autres téléphones sont gardés à vue. Bien que je n'ai rien répondu aux questions qui m'ont été faites sur mon évanouissement, ils savent, ils ont deviné que j'étais avertie de leur crime et ils prennent leurs précautions en conséquence. Oh, c'est abominable! Enfin, que croyez-vous qui soit arrivé? Allez jusqu'au bout de votre pensée. Ils ont séquestré, à l'heure qu'il est, assassiné peut-être. « Mon pauvre tuteur, » dit-elle lentement. « Et un autre a pris sa place, avec la complicité de ce docteur Christian, que je crois capable de toutes les infamies. Et les deux bandits vont se partager l'immense fortune. Voilà la vérité. »« Un pareil crime, » objecta le détective avec hésitation, « me semble de prime abord difficile à admettre. Êtes-vous bien sûr de n'avoir pas été le jouet de votre imagination et de vos nerfs ? Enfin, « Monsieur Robinson a été reconnu par tous ses amis, par moi même. C'est lui qui a demandé à être rajeuni par les procédés du docteur Christian. » Miss Elsie se taisait consternée.
« Quoi ? Vous aussi ? » murmura-t-elle avec accablement. « Vous allez passer dans le camp de mes ennemis ? Vous ne me croyez pas ? Vous allez m'abandonner ? » ?»«
Je n'ai jamais mis en doute votre sincérité. Je vous promets de mettre en œuvre tous les moyens dont je dispose pour arriver à découvrir la vérité. »
Puis, interrompit-elle, les larmes aux yeux, vous ne connaissez pas encore toute l'horreur de ma situation. Maintenant, le prétendu Robinson veut m'épouser. Il attribue mes accès de tristesse à une maladie nerveuse et parle de me mettre en traitement chez le docteur Christian. Ils veulent me dépouiller de ma fortune et me faire disparaître ensuite, comme ils ont dépouillé, sans doute, assassiné mon tuteur. Et ça c'est clair ? Vous reste-t-il encore des doutes ?
Miss Elsie avait parlé d'un accent de détresse si poignant que John Jarvis en fut profondément remué. « Non, dit-il, ce projet de mariage, bien qu'il ne soit qu'une preuve morale, est une preuve décisive. Il confirme tout ce que vous venez de me dire. Ne vous désolez pas. Je vous jure que je vous arracherai des griffes de ces misérables et que je délivrerai M. Robinson. Car enfin, ajouta-t-il pour donner quelque espoir à la jeune fille, Votre tuteur, s'il est séquestré, est bien vivant puisqu'il vous appelle à son secours.
« Dites qu'il m'appelait il y a 3 jours, »
murmura-t-elle avec un profond découragement.
« Qui sait, depuis ce qu'ils ont fait de lui ?»«
Je ne veux pas que vous vous laissiez abattre ainsi, » dit le détective avec autorité. « Il faut que vous soyez courageuse et que vous ayez foi en moi. J'ai pris l'affaire en main et je vous garantis que d'ici peu, les choses vont changer de face. Mais il faut que je puisse compter sur vous. Ne savez-vous pas que je vous suis entièrement dévouée ?»«
Que faut-il faire ?»
demanda-t-elle un peu réconfortée déjà par l'énergie même de ses paroles. « Montrez-vous aussi aimable que possible avec le faux Robinson, et même avec le docteur. Et tout d'abord, acceptez le projet de mariage dont on vous a parlé. »
« C'est vous qui me conseillez cela ?»
s'écria-t-elle dans un sursaut d'indignation.
« Oui, »
reprit-il, « parce que ce mariage n'aura jamais lieu. Je vous en donne la parole de gentleman. Ce n'est qu'un moyen pour nous de gagner du temps et d'endormir la prudence des deux bandits que votre attitude inquiète sans doute beaucoup. De plus, ce mariage, dont il faut fixer la date le plus tard possible, sera pour vous un prétexte à emplette, ce qui vous permettra de sortir. Tous les jours, de 15 à 16 heures, mon ami Floridor se tiendra dans la travée de gauche, au 2e étage du magasin de nouveautés françaises de la rue Montgomery, et vous y attendra. Vous ne ferez pas semblant de vous connaître, mais vous pourrez échanger des billets sans éveiller les soupçons. De cette façon, vous pourrez m'avertir de ce qui se passera et me donner rendez-vous ici, en cas de besoin.
Je ferai ce que vous me dites, à la lettre.
Une dernière recommandation. Tâchez de vous procurer les noms de tous les fournisseurs de M. Robinson, avant son rajeunissement. Cela est indispensable. Vous remettrez la liste à Floridor dès que vous l'aurez.
« Je vous quitte, » murmura-t-elle avec un timide sourire. « Il faut que je rentre bien vite. Me voilà maintenant un peu réconfortée. »
Demeurée seule, John Jarvis se promena longtemps d'un pas saccadé par les allées du jardin, mûrissant dans sa pensée tout un plan de campagne contre les bandits qui avaient si subtilement escamoté la personnalité du banquier Robinson. Le soleil couchant disparaissait dans l'océan par-delà la presqu'île de Monterey, quand le détective regagna son bureau. Il passa le reste de la soirée à donner de minutieuses instructions au fidèle Floridor. La bataille s'engageait. Chapitre 3. L'enquête de John Jarvis. Le détective eut bientôt une preuve de la docilité avec laquelle Miss Elsie suivait ses recommandations. Le lendemain même, il eut la surprise de voir annoncé dans tous les journaux de San Francisco le très prochain mariage de l'honorable Josias Harmon Robinson, le banquier rajeuni, et de sa charmante pupille, Miss Elsie Godesco. Bien que ce fût John Jarvis lui-même qui eût conseillé à la jeune fille de paraître consentir à cette union, il se sentit le cœur serré en lisant les articles dithyrambiques que consacraient aux futurs époux les journalistes du cru. Le banquier, surtout, était porté au nu. On admirait son désintéressement. Miss Elsie, en effet, était en comparaison de son fiancé presque une pauvresse, sa fortune ne s'élevant guère qu'à 5 millions de dollars. Les auteurs des articles ignoraient, et John Jarvis était un des rares à savoir, que Miss Codescoll possédait du chef de sa mère, dans la Nouvelle-Californie, de vastes terrains dont les récentes découvertes minières avaient centuplé la valeur. Le détective rejeta les journaux avec mécontentement et sortit. Il employa toute la matinée de ce jour-là à des visites chez des solicitors ou des hommes d'affaires. Le lendemain, à la grande surprise de Floridor, il fit de longues stations chez des tailleurs, des bottiers, des chemisiers et des chapeliers. Enfin, déguisé en chauffeur d'auto, il passa plusieurs soirées dans un cabaret fréquenté par les Noirs et fit de nombreuses emplettes chez divers brocanteurs juifs et chinois. Une semaine s'écoula ainsi dans une fiévreuse activité. Au bout de ce temps, John Jarvis jugea bon de donner rendez-vous à Miss Elsie pour la mettre au courant de ses démarches. La jeune fille entra comme la première fois par la porte du jardin et fut ensuite introduite dans le cabinet de travail du détective.
« J'allais venir si vous ne m'aviez pas convoqué, » dit-elle en s'installant dans le fauteuil que lui avançait Floridor. « Je vis dans une impatience mortelle, et cette honteuse comédie de fiançailles que je suis obligée de jouer pour tromper ce misérable. Je crois que je mourrais s'il me fallait continuer longtemps une pareille existence. »«
Prenez patience, » dit John Jarvis avec un sourire encourageant. « nous avons fait un grand pas dans la découverte de la vérité. Maintenant, même si je venais à mourir subitement cette nuit, vous êtes sûr de ne pas épouser le coquin qui s'est si subtilement glissé dans la peau de mon ami Robinson. J'ai la preuve que l'homme qui prend ce nom n'est pas le véritable Robinson.
Comment prouver une pareille chose ?
Demanda la jeune fille ébahie.
Rien de plus simple. Grâce à la liste de fournisseurs que je vous avais demandée, j'ai pu reconstituer la fiche anthropométrique du vrai Robinson. Sans qu'on puisse deviner dans quel buste j'agissais, je me suis fait communiquer les livres où le chemisier, le bottier, le tailleur inscrivent les mesures de leurs clients habituels. Le détective tira d'une boîte une paire de gants neufs.
« Tenez, miss, votre tuteur n'achetait jamais de gants tout faits. Avec ceci, que je me suis fait fabriquer d'après les indications du livre, j'aurai, quand je voudrais, un moulage suffisamment exact de la main de M. Robinson. »
« C'est prodigieux !»«
Vous devinez mon but. » Après avoir établi la fiche du vrai Robinson, j'ai établi celle du faux. Ce qui ne m'a pas été plus difficile. Avec quelques dollars intelligemment distribués aux domestiques noirs de la villa ou aux fripiers auxquels ils revendent les vieux habits de leur maître. Il ne me restait plus qu'à comparer les deux fiches. Le résultat a été concluant. Le Robinson actuel a les bras beaucoup plus longs, les mains et les pieds beaucoup plus forts que l'ancien.
Pourtant, fit observer Floridor, les sérums et les greffes n'ont pas le pouvoir de faire allonger les bras ou les doigts de la main.
Mon ami a entièrement raison, dit John Jarvis, qui ne put s'empêcher de sourire de la réflexion du brave Canadien. Mais je reviens à mes fiches. Je les ai complétées par la comparaison des deux photographies publiées par les journaux, celle de Robinson à 60 ans et celle du même Robinson après l'opération du rajeunissement. Je me suis donné la peine d'agrandir les deux clichés et j'ai fait des mensurations.
« Cependant, fit remarquer la jeune fille, la ressemblance est frappante, extraordinaire. »«
D'accord, cette ressemblance donne une illusion parfaite, mais à condition que l'on n'étudie pas un à un les détails des deux portraits. La longueur du nez, la hauteur du front, l'écartement des sourcils, la dimension et la forme des oreilles diffèrent sensiblement dans les deux images. Je puis le prouver, documents en main. L'homme qui a présidé la fête de la Villa des Cèdres n'est pas le banquier Josias Orman Robinson.
Qui est-ce donc ?
Demanda Miss Elsie avec angoisse. Vous allez savoir si vous voulez bien m'écouter. J'ai réussi, non sans peine, à identifier l'homme dont nous parlons. Ma première idée fut de confronter la photographie et l'affiche que j'avais constituée avec le dossier spécial des détenus évadés de prisons et des contumaces de l'Amérique entière, dont un exemplaire est déposé au Central Police Office de San Francisco. Mon idée était excellente, comme vous l'allez voir. J'obtins aisément communication du dossier et, au bout d'une demi-heure de recherche, je mettais la main sur la photo et sur l'affiche d'un certain Toby Grogan, évadé depuis 3 ans de la prison des tombes, à New York, où il purgeait une peine de 10 ans pour assassinat suivi de vol.
« Quelle honte !» s'écria la jeune fille dont le visage s'empourpra. « Je ne peux supporter la pensée que les journaux aient publié mon portrait accolé à celui de ce misérable. Oh, pourquoi ai-je eu la faiblesse de suivre vos conseils ?»«
De grâce, Miss Elsie, fit le détective avec le plus grand flegme. « Soyez un peu plus calme, et surtout, faites-moi l'honneur d'avoir un peu plus de confiance dans mes faibles talents. Je vous affirme que personne ne saura jamais que vous avez été fiancée à Toby Grogan. »«
Excusez-moi, Monsieur Jarvis, » dit-elle mélancoliquement. « Vous savez bien que j'ai en vous toute confiance. »«
Il faut maintenant que je sache, » reprit-il, de quelle façon est mort le fils de votre tuteur et à quelle époque? Car je sais que M. Robinson a eu un fils. Vous devez être au courant. Ce fait est d'une haute importance pour notre enquête.
Je puis vous renseigner. M. Robinson, qui se maria très jeune et fut veuf de bonne heure, a eu en effet un fils, qui aurait maintenant à peu près l'âge du misérable qui usurpe son nom. Ce fils causa beaucoup de chagrin à son père par ses débauches. Il fut condamné pour tricherie au jeu. Sa conduite força M. Robinson à quitter New York. D'ailleurs, le misérable périt dans le naufrage de l'Alabama, dans les parages des îles Bermudes. C'est à peu près tout ce que je sais.
« Cela suffit largement, » s'écria le détective, avec une sorte d'enthousiasme. « Maintenant, je puis reconstituer toute l'histoire. Sachez, miss, que dans le dossier de Toby Grogan se trouve un certificat de l'autorité maritime attestant qu'il est un des 6 rescapés du désastre de l'Alabama. Tout s'explique. Il est évident pour moi que le jeune Robinson s'est approprié les papiers du véritable Grogan.
Je compléterai cet exposé en vous apprenant qu'il y a 3 ans, le docteur Klaus Christian était un des médecins de la prison des tombes. Miss Elsie était stupéfaite et en même temps consternée de cet enchaînement de faits si miraculeusement mis en lumière par la sagacité du détective. « De sorte, » fit-elle, avec une épouvante réelle, « que c'est le fils qui a pris la place du père et que la ressemblance qui a fait illusion à tout le monde est parfaitement naturelle. » La jeune fille demeura quelques instants silencieuse et pensive. « Il y a, » dit-elle enfin, « une question que je n'ose pas vous faire, tant je redoute que votre réponse ne m'apprenne une catastrophe irrémédiable. Croyez-vous que mon tuteur soit encore vivant ?»«
Je n'ai jusqu'ici aucune preuve de sa mort, » répondit le détective avec une nuance d'embarras. « Ce que j'ai appris en interrogeant adroitement les domestiques de la maison de santé du docteur Klaus Christian est même assez déconcertant. Monsieur Robinson, pendant les 2 mois qu'a duré son traitement, n'a pas quitté le pavillon que le docteur lui avait assigné. Il n'a reçu aucune visite du dehors. C'était une des conditions mises à son rajeunissement. Mais les domestiques lui ont parlé tous les jours, ont assisté avec curiosité à toutes les phases de son retour à la jeunesse et l'ont vu monter en auto, quelques heures avant la fête donnée à la Villa des Cèdres. Ici, je l'avoue, ma perspicacité est en défaut. Pour déjouer la curiosité, le docteur s'est servi de moyens qui m'échappent.
En admettant que les domestiques n'aient pas menti, répliqua Miss Elsie avec vivacité, et que mon tuteur fut réellement vivant le jour de la fête, il est hors de doute pour moi que l'auto qui devait le conduire à la Villa des Cèdres l'a emmené dans quelque repère secret où, vivant ou mort, il doit être encore à l'heure qu'il est.
J'ai eu la même pensée que vous. J'ai cherché où pouvait être ce repère, cette cachette dont vous parlez. Le docteur n'a pas d'amis et il est bien trop rusé pour associer un complice à ses projets. Il était donc de toute évidence que ce repère ne pouvait se trouver que dans un immeuble appartement au docteur. Or, il ne possède que sa maison de santé et un grand terrain à San Gregorio, dans une vallée des Monts Matteo, à 20 000 d'ici. La maison de santé est ouverte à tout venant et, à cause de la nature même du sol, je l'ai vu construire, elle ne renferme ni cave ni souterrain d'aucune espèce. Quant au terrain que Floridor est allé visiter, c'est un immense enclos à l'abandon, avec une mare au milieu, sans aucune construction. Je suppose qu'il n'a été acquis par le docteur que dans un but de spéculation. Que vous dirais-je? J'ai depuis 8 jours fait filer le docteur Christian et son complice, par des hommes de confiance. Ils n'ont rien remarqué de suspect. Miss Elsie avait jeté un coup d'œil sur la pendule électrique et s'était levée précipitamment.
« Il faut que je me retire, » murmura-t-elle. « Mais je vous en supplie, tâchez de sauver mon tuteur, si malheureusement, il n'est pas trop tard. Je sais que vous ferez tout ce qu'il est humainement possible de faire. »
Elle avait déjà rajusté l'épaisse voilette qui dissimulait ses traits et qu'elle enlevait en entrant dans le magasin de nouveautés où elle était censée avoir passé l'après-midi, lorsqu'elle se ravisa.
« Je suis si troublée, » fit-elle, « que j'ai oublié de vous remettre quelque chose qui peut vous intéresser. »
Elle tira de son corsage une feuille de papier. Mais dès qu'elle l'eut déposée, elle poussa un cri de surprise.
« Plus rien !» s'écria-t-elle avec dépit. « L'écriture s'est envolée. Figurez-vous que ce matin, j'ai pu me glisser dans le cabinet de travail. J'ai eu l'idée de fouiller dans la corbeille à papier, et j'y ai trouvé une lettre déchirée en tout petits morceaux. J'ai eu la patience de reconstituer la lettre, comme si j'avais joué au puzzle, en collant à mesure chaque morceau sur cette feuille. Et voilà que l'écriture s'est évaporée.
« Rien d'extraordinaire à cela, » expliqua le détective. « L'auteur de la lettre s'est servi d'une encre spéciale que l'on trouve facilement dans le faubourg de Rian. Certains Chinois s'en servent pour signer les reconnaissances de dette. Quand le créancier veut s'en servir, il ne trouve, comme vous, qu'une feuille de papier blanc.
Vous rappelez-vous au moins le contenu de cette lettre ?»«
Oui, très exactement. Il n'y avait que quelques lignes et je n'y ai rien compris. C'est pour cela que j'avais voulu vous les montrer. C'était de l'écriture du docteur. » « Écriture que je connais bien. » « Dites toujours. » « Voici textuellement. Le mandarin se porte à ravir. Je suis prête à traiter avec lui si vous ne tenez pas vos engagements. Dernier avis. »
« Dire que vous avez failli ne pas parler de cette lettre !» s'écria le détective avec agitation. « C'est capital, tout simplement !»
« Je vous l'affirme maintenant. Monsieur Robinson est encore vivant. Mais sa vie ne tient qu'à un fil. Le mandarin qui se porte à ravir, c'est lui, évidemment. » Klaus Christian est prêt à trahir, au profit de sa victime, son complice qui n'a pas tenu ses engagements. Les 2 derniers mots, dernier avis, renferment une menace peu dissimulée. Le docteur devait sans doute recevoir la moitié de la fortune de M. Robinton ou davantage, et comme cette promesse n'a pas été tenue, il fait chanter son associé en le menaçant de tout découvrir.
« Et si le docteur obtenait satisfaction ?» demanda Miss Elsie le cœur serré.
M. Robinton serait immolé, n'en doutez pas. Si un bandit de la trempe de Christian ne l'a pas déjà assassiné, c'est qu'il le conservait comme une sorte de garantie vivante de l'exécution du pacte.
« Que faire ?» demanda la jeune fille désespérée. « Rien n'est encore perdu. Je sais, par les hommes que j'emploie, que le faux banquier a passé la matinée dans ses bureaux et qu'il y est revenu après avoir déjeuné dans un restaurant. Il paraissait de méchante humeur. À 13 heures, il a reçu à la banque la visite de Christian. Ils ne sont restés que quelques minutes ensemble et se sont donné rendez-vous pour 19 heures à la Villa des Cèdres. Depuis ce que vous venez de me dire, ce rendez-vous prend une importance énorme. C'est dans cette entrevue, certainement, que va se décider le sort de votre tuteur.
Je vous le répète, miss, ayez du calme et du sang-froid. La partie est loin d'être perdue, mais il dépend un peu de vous que nous la gagnions.
Il faut absolument arriver à surprendre quelque chose de l'entretien des deux bandits et à savoir ce qu'ils auront décidé. Alors, avertissez-moi et j'agirai.
Vous savez bien, dit-elle avec découragement, qu'il m'est difficile de téléphoner. Même si je puis connaître leur projet, comment vous prévenir ?
Il le faut pourtant, déclara-t-il gravement.
Aimez-vous mieux que votre tuteur soit assassiné cette nuit ?
Dites que vous voulez aller au cinéma ou au concert. Trouvez un prétexte pour sortir. Et s'il n'y a pas d'autre moyen, enfuyez-vous. À l'heure qu'il est, nous n'avons plus rien à ménager.
La jeune fille promit de tenter l'impossible et se retira profondément troublée.
Chapitre 4. Le jardin des gémissements.
Cette journée parut interminable à John Jarvis. Bien qu'il eût pris toutes les précautions possibles pour intervenir, quels que fussent les événements, il ne se dissimulait pas que les deux bandits auxquels il s'était attaqué étaient de rudes adversaires, et il se demandait avec inquiétude si, malgré toute son habileté, il n'avait pas eu vent de ses agissements. Il attendait avec impatience le renseignement que Miss Elsie devait lui fournir et qu'elle seule pouvait lui donner, car toutes ses tentatives pour soudoyer les domestiques qui approchaient la jeune fille étaient demeurées sans résultat. 20 heures venaient de sonner et il commençait à désespérer quand le grelot du téléphone retentit. Il se précipita vers l'appareil.
« Allô ? Monsieur John Jarvis ? Allô, Miss Elsie ? Je suis désespérée. Je n'ai pu surprendre la conversation des deux bandits, mais je tremble que vous n'ayez deviné juste. Ils se préparent certainement quelque chose pour ce soir. Ils se sont donné rendez-vous à minuit. Je ne sais pas en quel endroit. Ils paraissent parfaitement d'accord, mais très nerveux, très agités. C'est à peine s'ils ont fait attention à moi. On ne m'a pour ainsi dire pas surveillée ce soir. Comme si quelque événement rendait cette surveillance inutile. Et j'ai pu vous téléphoner sans que personne n'y mit obstacle. »
C'est désastreux que vous ne sachiez rien, dit le détective avec impatience. Vous n'avez aucun indice? Vous n'avez trouvé aucune lettre, aucun papier dans le cabinet de travail?
J'y suis en ce moment même. Il n'y a pas autre chose qu'une grande carte routière placée sur le bureau, mais je l'y vois tous les jours.
Et vous ne me disiez pas cela. Déployez cette carte. Et d'abord, de quelle région?
De la région nord de San Francisco. Ah, il y a un trait bleu au crayon qui part de la ville et s'arrête au pied des monts Mateo.
Voyez vite s'il y a un nom de localité à l'endroit où se termine cette ligne.
Oui, en toute petite lettre, c'est San Gregorio, un village sans doute.
Je vous remercie, miss. Ce renseignement m'est plus précieux que vous ne pouvez croire. Autre chose, où est en ce moment le faux Robinton?
Je suppose qu'il est allé à son cercle. Il était en habit et il a pris la limousine. Mais de ma fenêtre qui donne sur le garage, je l'ai entendu ordonner qu'on tienne prête pour 23 heures la petite torpedo.
Et c'est tout?
Je ne sais pas autre chose.
Encore une fois, miss, mes remerciements. Tout ce que vous venez de m'apprendre servira. Surtout, ayez confiance.
John Jarvis avait raccroché le récepteur et réfléchissait. San Gregorio, se disait-il, c'est là où se trouve le terrain qui appartient au docteur. C'est là, évidemment, que les deux coquins se sont donné rendez-vous. L'endroit où ils séquestraient le banquier n'est sans doute pas loin de là. Il s'agit d'arriver avant que le prix du sang n'ait été versé et que la victime soit immolée. Le détective regretta alors amèrement de n'être pas allé lui-même explorer les terrains de San Gregorio, où il s'était contenté d'envoyer Floridor. À ce moment, le brave Canadien pénétra tout essoufflé dans le bureau.
J'ai des nouvelles, s'écria-t-il. Klaus Christian part ce soir même pour New York, par le train de 22 heures.
C'est à n'y rien comprendre, murmura John Jarvis avec dépit. Si ce que tu dis est vrai, je me suis lourdement trompé.
Rien n'est plus vrai. Le docteur lui-même a pris un billet à l'agence du Western Pacific en annonçant sa voyage de quelques jours. Il n'y a pas un quart d'heure.
John Jarvis demeura silencieux pendant une longue demi-heure. Floridor, qui, habitué à ses manières, se gardait bien de lui adresser la parole, le vit étudier tour à tour avec attention l'indicateur du Western Pacific Railway et la carte routière de la région située au nord de San Francisco. « Voici ce que j'ai résolu, » dit-il enfin. « Tu vas prendre le même train que le docteur. Il n'est que 21 heures, et tu le suivras en quelque endroit qu'il aille. »
« Il va à New York. »
« Tu iras jusqu'à New York. S'il se produit quelque incident, vite, un coup de téléphone ou un sans-fil. N'oublie pas que le train de luxe que tu vas prendre est muni d'un appareil de TSF. Naturellement, il ne faut pas que le docteur Klaus Christian puisse te reconnaître. »
Le géant blond s'inclina sans répondre et sortit. Il revenait 10 minutes plus tard, coiffé d'un chapeau plat à large bord, affublé de lunettes fumées et vêtu d'une longue redingote noire. Ainsi camouflé, il ressemblait tout à fait à un ministre de quelque secte sévère de méthodistes ou de quakers.
« Tu es superbe !» dit le détective en riant. « Mais dépêche-toi, tu n'as que le temps de te rendre à la station. »
Floridor une fois parti, John Jarvis se replongea dans ses calculs topographiques. À 22h30, il se leva et échangea son costume de ville contre un solide veston de cuir, un pantalon de gros drap et une casquette de chauffeur. Il glissa ensuite dans sa poche un Browning, une petite trousse de voyage et divers autres objets, et il se disposait à sortir quand la sonnerie du téléphone retentit.
« Allô ? Allô, c'est moi, Floridor. Notre homme vient de descendre à la petite station de New Placer. Là, son auto l'attendait. Pendant qu'il parlait à son chauffeur, qu'il a congédié, j'ai donné un coup de couteau dans un des pneus, ce qui va me permettre de le rejoindre et de ne pas le lâcher. J'ai un moyen. »
Cette conversation venait de prendre fin quand la sonnerie tinta de nouveau. C'était un des nombreux agents au service du détective qui lui apprenait qu'à 22 heures, le chauffeur du docteur était parti avec son auto pour une destination inconnue. Cette destination, songea le détective, est tout bonnement la gare de New Placer. Et après un coup d'œil à son chronomètre.
Il est temps de partir. 23h moins le quart. Je n'ai guère que 15 minutes d'avance sur l'autre.
Il se hâta d'aller prendre place dans une robuste et légère 50 chevaux dont il se servait dans les expéditions du genre de celles qu'il allait entreprendre et démarra. Bientôt, il eut laissé derrière lui les dernières maisons des faubourgs et fila vertigineusement en pleine campagne. À mesure qu'il avançait, la route se faisait plus étroite et plus mal entretenue. Bientôt, ce ne fut plus qu'une large piste caillouteuse bordée par des champs et des terrains en friche. John Jarvis dut ralentir et consulter sa carte et ses notes. À un demi-mille en avant de lui, il voyait quelques lumières. Il jugea que ce devait être San Gregorio. Une douzaine de maisons de briques et autant de huttes de torchis composaient ce misérable hameau habité par des Chinois et quelques colons de race espagnole. D'ailleurs, pas une âme. Un silence profond qu'accentuaient les hurlements lointains d'un chien perdu. À grand-peine, le détective put mettre la main sur un vieux métis en train de fermer sa boutique, une chétive épicerie, et le pria de garder sa voiture qu'il reviendrait chercher avant 1 heure. « Je vais, expliqua-t-il, à 1 mile d'ici, chez un de mes parents, un fermier. »«
Il se nomme ?» demanda le vieillard d'un air soupçonneux.
Le détective s'applaudit alors d'avoir retenu les noms des principaux hacenderos du voisinage, notés par Floridor lors de son voyage à San Gregorio. « Je vais chez Will Blooker, » dit-il rudement.
« Est-ce que tu trouves à redire ? Tiens, voilà 1 dollar, et tu en auras un autre si en mon absence on n'a rien volé dans ma voiture. »
Le vieillard s'inclina révérencieusement.
« Le chemin vous est facile, » dit-il en riant.
« C'est le dernier sentier à gauche, au bout du village.
Quel dommage que vous soyez obligé de suivre, pendant un quart de mille, la haie qui clôture le jardin des gémissements.
« Qu'est-ce que c'est que cela ?» demanda le détective avec une surprise qui n'était nullement feinte.
« Vous ne savez donc pas ?
Il est vrai que vous êtes étranger. Le jardin des gémissements, ce sont les Chinois qui l'ont ainsi baptisé. » Et il appartient à un habitant de Frisco que personne n'a jamais vu. Il occupe l'emplacement d'un ancien camp de prospecteurs du temps de la fameuse fièvre de l'or, au début de la Californie. Tout le sol a été 100 fois retourné. Il paraît que les hommes mouraient comme des mouches de la fièvre, et aussi des privations, et des coups de couteau, et des balles de revolver. Le jardin est plein d'ossements. C'était peut-être leur cimetière. Quoi qu'il en soit, c'est une terre maudite.
Vous vous figurez cela, fit Jarvis en regardant impatiemment l'heure à son chronomètre.
Hélas, dit le vieillard avec gravité, les preuves sont là. Tous ceux qui ont possédé ce jardin de malédiction sont morts lamentablement. L'avant-dernier propriétaire s'était construit une jolie maison de bois et avait fait une plantation d'arbres fruitiers. Une nuit, il a été égorgé avec sa jeune femme et son enfant par des bandits qui ont mis le feu à la maison en s'en allant.
Le vieillard frissonna.
La nuit, et même parfois le jour, on entend des plaintes confuses, des gémissements d'âmes damnées qui montent des entrailles de la terre. Tout le monde s'en écarte avec horreur. Ah, je n'y passerai pas la nuit pour une fortune. »
Le vieux métis eût continué longtemps sur ce ton si le détective n'eût brusquement pris congé de lui. Ce qu'il venait d'apprendre n'avait fait que piquer sa curiosité, puis il fallait qu'il fût là le premier. Après un temps assez court de pas gymnastique, il atteignit le jardin des gémissements, aisément reconnaissable, d'après ce qu'il en savait, à son immense étendue, à son aspect sauvage et à la haute clôture d'acacias épineux qui l'entourait. Il franchit non sans peine la haie, épaisse comme un hallier, et découvrit, aux rayons de la lune qui filtrait entre deux nuages noirs, un site de l'aspect le plus sinistre. Des arbres morts, phosphorescents sous leur sueur de liane, ressemblaient à des fantômes de feu pâle. Des troncs tombés, autour desquels bourdonnaient les noctuelles, les sphinx et les autres coléoptères nocturnes, avaient l'air de cadavres rongés par les insectes. Dans le sol défoncé, s'ouvraient partout des excavations pareilles à des fosses béantes. Un oiseau de nuit s'envola avec un cri plaintif, et malgré lui, John Jarvis se sentit envahir par une anxiété inexplicable. Il fit encore quelques pas dans les hautes herbes qui bruissaient sous ses pas avec des froissements d'étoffes soyeuses, et son pied buta contre un crâne moisi, verdissant comme un fruit tombé de l'arbre de la vie. Il eut un mouvement de recul machinal.
« Ce scélérat de Christian a bien choisi son repère !» murmura-t-il angoissé.
À ce moment, une plainte déchirante, mais assourdie et lointaine, parvint à son oreille. Et il ne put dire si elle s'élevait des profondeurs de la terre ou si elle descendait de la cime des cèdres ébranchés par la foudre. Puis, tout se tut. L'oreille, anxieusement tendue à tous les bruits de la campagne, John Jarvis n'entendit plus que le murmure léger des herbes dont les graines mûres tintaient au souffle de la brise nocturne. Il fit encore quelques pas. Il était arrivé au bord d'une sorte de pièce d'eau, à margelle de pierre qu'envahissaient les joncs, les prêles géantes, les roseaux et d'autres plantes aquatiques, et au-dessus de laquelle bourdonnaient des nuées de moustiques. À ce moment, le ronflement d'un moteur se fit entendre dans le silence de la campagne endormie, dans une direction tout opposée à celle qu'avait prise John Jarvis pour venir. Le détective se tapit aussitôt derrière un buisson de mimosa et attendit. Une auto venait de stopper, tous phares éteints, de l'autre côté de la clôture. Un homme en descendit, pénétra dans le jardin par une brèche et marcha droit à la pièce d'eau. Malgré l'obscurité, John Jarvis reconnut parfaitement le docteur Klaus Christian. Il le vit se baisser comme pour prendre un objet placé à terre, puis attendre d'un air d'impatience pendant quelques instants, et enfin pénétrer délibérément à travers le massif des roseaux et des prêles où il disparut.
« Je ne suppose pas qu'il se soit noyé, » se dit le détective très intrigué, et il s'aventura à son tour dans le massif de roseaux. Une autre surprise l'attendait. La pièce d'eau semblait s'être brusquement desséchée. John Jarvis marchait dans une boue noire et fétide. Mais à peine eut-il fait quelques pas que l'eau commença à monter. Le détective n'eut que le temps de regagner le bord, et quand il y fut parvenu, le bassin avait repris son aspect habituel et les ondes tranquilles reflétaient le ciel et la lune livide derrière les nuages. C'était à n'y rien comprendre. Pendant quelques instants, le détective demeura décontenancé. Tout à coup, il se rappela qu'avant de s'engager dans les roseaux, le docteur s'était baissé, comme pour ramasser quelque chose. Guidé par les traces de pas, il retrouvera facilement l'endroit. Mais il ne présentait rien de spécial. Le détective mit quelque temps à s'apercevoir qu'une des pierres de la margelle était descellée. Il l'enleva. Elle cachait un anneau de fer. Il tira de toutes ses forces sur l'anneau et eut la satisfaction de voir le niveau de l'eau baisser presque instantanément. Il s'expliquait maintenant tout le mystère. Un mécanisme très simple vidait ou remplissait à volonté le bassin qui avait dû être autrefois un réservoir pour le lavage du minerai. Et c'est au fond même de la pièce d'eau que devait se trouver l'entrée du repère des bandits. Les troncs creusés des vieux arbres devaient servir de cheminée d'aération au souterrain. Et John Jarvis comprenait maintenant pourquoi les gémissements qu'il avait entendus, ceux du banquier Robinson, sans nul doute, semblaient tantôt partir des entrailles de la terre, tantôt de la cime des arbres. Le détective s'apprêtait à s'aventurer une seconde fois dans le sentier frayé par le docteur à travers les plantes aquatiques, quand les rayons de la lune lui montrèrent derrière les buissons une ombre gigantesque. Il allait prendre son Browning quand il reconnut Floridor, qui de son côté l'avait aussi aperçu. Le Canadien avait trouvé moyen, à peu de distance de la gare de New Placer, de se hisser derrière l'auto du docteur, bien éloigné de soupçonner la présence d'un pareil compagnon de route. En quelques mots, Jarvis mit Floridor au courant de sa découverte et tous deux s'avancèrent avec précaution dans la boue du réservoir momentanément desséché. Le centre du bassin, soigneusement débarrassé des plantes parasites, était dallé de briques entre lesquelles s'encastrait une longue plaque de fer rouillé qui était une trappe dont une bande de caoutchouc assurait hermétiquement la fermeture. Le panneau de la trappe fut soulevé sans peine par Floridor et découvrit les premières marches d'un escalier que les deux détectives descendirent silencieusement. Après avoir franchi une quinzaine de marches, ils se trouvèrent dans un couloir humide, à l'extrémité duquel une porte entrebâillée laissait filtrer un ray de lumière. John Jarvis entra brusquement, le Browning au poing, et avant que le docteur Christian, qui lisait paisiblement assis devant une table, eût pu faire un geste, il lui appuya le canon de l'arme sur le front. Au même moment, Floridor le saisissait à la gorge et lui passait les menottes dont il portait toujours une ou deux paires dans ses poches. Klaus Christian n'avait pas eu le temps de prononcer une parole. Pour plus de sûreté, le Canadien le bâillonna solidement avec un mouchoir. La précaution n'était pas inutile, car presque aussitôt, on entendit résonner la trappe de fer. Abandonnant leur prisonnier, les deux détectives s'élancèrent vers l'escalier. Au moment où ils mettaient le pied sur la dernière marche, le faux Robinson fut cueilli et ficelé sans avoir eu le temps de se reconnaître. John Jarvis trouva sur lui une somme considérable en chèques et en valeurs au porteur. Elle devait être remise au docteur comme prix de l'assassinat du banquier. Sans la méfiance de Christian, qui ne voulait sacrifier le précieux otage qu'il avait entre ses mains qu'une fois néanti des valeurs, toute l'habileté du détective eût été inutile. Celui-ci arrivait juste au moment où l'horrible marché allait être réalisé. « Porte ce misérable dans l'auto, » dit John Jarvis à l'oreille de Floridor. « Tu sais ce que j'ai résolu à son égard. Il est inutile que mon ami Robinson sache que son fils vit encore et a failli devenir son assassin. » Le Canadien obéit, pendant que son ami furetait par tous les recoins du souterrain pour retrouver le banquier qui devait être prisonnier. Il le découvrit enfin dans une étroite cellule, étendu sur un misérable lit de sangle, évanoui ou mort. Mais tout d'abord, il hésita à le reconnaître. C'était bien Robinson, mais Robinson, réellement rajeuni d'une vingtaine d'années et ressemblant d'une manière stupéfiante à celui qui avait pris sa place. Par un excès de machiavélisme, et pour pouvoir sans doute mieux tenir son complice, Christian avait soigneusement appliqué au banquier le système de greffe de la méthode Voronoff, et c'est le soir même de la fête de la Villa des Cèdres qu'il l'avait transporté dûment anesthésié dans cette sinistre geôle souterraine. Robinson ignorait encore que Christian fût l'auteur de sa captivité, ainsi qu'il le dit plus tard. Tout en réfléchissant aux ruses de l'astucieux docteur, il constatait avec satisfaction que le banquier était simplement plongé dans l'hébétude produite par le chloroforme. Il ne fallait pas songer à le réveiller pour l'instant. Il résolut de mettre ce délai à profit pour en finir avec le docteur dont il était d'ailleurs au fond assez embarrassé. Il retourna donc dans la première pièce
et enleva le mouchoir qui bâillonnait Klaus Christian.
« Je sais que vous n'êtes pas un homme à m'assassiner, » lui déclara cyniquement le bandit. « Donc, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de me laisser tranquillement aller à mes affaires. »
« Je n'en ai guère envie. »
« Robinson sera le premier à me demander qu'on fasse le silence sur cette affaire. »«
Et vous-même, » ajouta-t-il en ricanant,
« vous ne tenez pas à ce qu'on sache que le détective John Jarvis et le millionnaire Todd Marvel ne sont qu'une seule et même personne. Il y a longtemps que j'ai percé votre incognito. »
Vous êtes un abominable gredin.
Comme il vous plaira. Je m'engage, si vous me laissez tranquille, à quitter pour toujours San Francisco. Quant à Toby Grogan, ou si vous aimez mieux, Robinson Fils, faites-en ce que vous voudrez. Il est par trop bête. S'il m'avait tenu parole, nous n'en serions pas où nous en sommes.
Faute d'une meilleure solution, le détective finit par céder, mais en se réservant d'imposer à Christian une salutaire retraite d'un mois dans le souterrain afin d'avoir le temps de prendre toutes les précautions nécessaires pour déjouer les ruses du bandit. À quelque temps de là, on apprenait par la voix des journaux que le savant docteur Klaus Christian avait vendu sa maison de santé et s'était retiré au Mexique. Les mêmes feuilles annonçaient l'arrestation d'un dangereux repris de justice, Toby Grogan, évadé depuis 3 ans de la prison des tombes où il venait d'être réintégré. Personne ne soupçonna jamais la singulière aventure du banquier Robinson, et on apprit seulement avec surprise qu'à la suite de certaines considérations, il renonçait à épouser sa pupille, la toute charmante Miss Elsie.